et dans notre démocratie. Cependant, je ne parlerai pas des personnes qui ont été tuées lors des attentats, ni de ceux qui ont commis ces attentats. Je préfère que nous réfléchissions ensemble à nos chemins, à notre foi, à nos questionnements. Parce qu'humains, tous humains, nous empruntons souvent le même chemin orgueilleux qui nous condamne à l'erreur, à la condamnation et à l'exclusion de l'autre. Donc ce matin, je vous invite à revenir à travers deux textes, je vais aller l'un après l'autre, sur l'attitude de Jésus. Que se passe-t-il dans l'évangile que nous venons d'entendre? Remarquons d'abord donc qu'il y a 9 fois ce petit mot « or ». Remarquons aussi qu'une femme est donc prise en flagrant délit d'adultère, elle et elle seule. Première surprise. Vous avez compris. Deuxième surprise, le texte ne dit pas qu'elle est prostituée, parce que dans la Bible, c'est pas bien ça non plus. Il dit simplement qu'elle est adultère, mais c'est significatif dans le langage biblique, c'est qu'elle trahit une alliance. Et ça, dans la Bible, ce n'est pas possible, puisque l'alliance que l'Éternel passe avec chacun d'entre nous est le symbole de toutes nos alliances. Donc toucher à l'alliance dans la Bible, c'est grave. En face, il y a des hommes masculins, sinon je dis humains quand il y a des femmes dedans, des hommes, qui devaient les pieds, hein, parce que pour prendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il faut quand même être à la fenêtre, non, ou à la porte, ou sous le lit. Hein? Donc voilà, ça vous dit bien l'état d'esprit de ces messieurs. Ceci est visible, c'est que ces hommes, en tout cas, ne voient qu'une seule chose, il faut absolument prendre une femme en délicatesse avec la loi, mais pour piéger Jésus. Elle n'est qu'à prétexte, finalement, cette femme. Si Jésus n'avait pas été dans le coin, elle n'aurait pas été mise en flagrant délit, donc en petite tenue, au milieu du temple. Vous imaginez un peu le scandale et le mal que ces hommes ont fait simplement pour obtenir raison dans leur orgueil contre Jésus? Cette femme a donc trahi la loi, certes. Et la loi justifie alors la mise à mort de cette femme par la lapidation. Pas besoin de dessin là non plus. Jésus est lui aussi mis devant le fait accompli et pris en otage, puisqu'il est dans la synagogue pour prêcher. Il enseigne. Mais les hommes traînent la femme devant lui, l'accusent et demandent à Jésus son avis. Seras-tu pour la loi ou seras-tu contre la loi? C'est dire que ces hommes, au regard mauvais, avaient déjà eu Jésus à l'œil. Ils avaient déjà entendu ces interprétations de la loi qu'ils avaient trouvées borderline, n'est-ce pas, limite. Interprétation de la loi, comme il se doit. Toute loi doit être interprétée en fonction de la personne et du contexte. Et Jésus, lui, a toujours fait le pari d'interpréter la loi avec une porte ouverte sur la conversion, le changement, la patience et la miséricorde. Toujours donner du temps aux pécheurs pour qu'ils se convertissent. Et Jésus, devant tant de haine, devant les pierres ramassées, devant les pierres dans les mains, que fait Jésus? Il se met à genoux, il baisse la tête et il dessine par terre. L'évangile ne nous dit pas ce que Jésus a dessiné. Mais cette attitude de Jésus est une attitude qui donne du temps à ceux qui sont là. Ça permet à ces hommes pleins de haine de patienter, eux qui sont prêts à tuer la coupable idéale. Cette haine ne dit-elle pas aussi leur propre désir parfois, de commettre l'adultère, mais ils ne le font pas tellement ils ont peur de la loi. Mais leur désir est là, qui les conduit à condamner celle qui est passée à l'acte. Mais, rappelons-nous, Tuer un homme ou une femme au nom de Dieu, n'est-il pas un blasphème plus grand que de désobéir à la loi ? Rappelez-vous cette phrase de Sébastien Castillon, ami de Calvin, avec qui il s'est fâché après la mort sur le bûcher de Michel Servet. Castillon écrit ceci, « Tuer un homme, ce n'est pas une doctrine, c'est tuer un homme. » Premier des blasphèmes, quand il est fait au nom de Dieu. La parole de Jésus est une parole absolument terrible, adressée aux hommes présents. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Je ne sais pas si je partirai la première. Invitation à réfléchir. Invitation à se regarder soi-même. Invitation à ne pas faire violence à l'autre sans discernement. Invitation à ne pas faire violence du tout. Car honnêtement, chacun de nous, après examen, ne sommes-nous pas passibles de la même peine ? Et Jésus se penche alors à nouveau pour écrire sur le sol, toujours sans crayon, avec son seul doigt. Penché sur le sol, Jésus ne regarde personne, car il ne veut pas que son attitude debout et de regard puisse condamner même ceux qui sont là pour condamner. Extrême retrait de la violence. Alors les hommes reconnaissant quand même cela, honnêtement, se retirent. Honnêtement, ils se retirent tous, à commencer par les plus vieux. Je trouve ça assez honnête, moi, non ? Hein ? Il faut quand même leur reconnaître ça. Nul n'est tout mauvais ou tout bon. Ils se retirent, ils laissent là leurs pierres et s'en vont. Le cœur lourd, sans doute, d'avoir raté une occasion de juger, de condamner et de lancer des pierres, et d'avoir raté l'occasion de piéger Jésus. Quand tout le monde est parti, Jésus se lève et regarde la femme. Et il la questionne. Enfin, quelqu'un la considère. Avant, elle n'était qu'un objet manipulé par les uns pour piéger l'autre. Personne ne m'a condamnée, répond-elle. Elle est passée de la peur à la surprise, à l'étonnement. Elle est passée de la mort à la réflexion qui laisse advenir la vie. Jésus alors la renvoie et l'invite à changer d'attitude. L'invite à ne plus se mettre en danger par rapport à la loi. Et l'invite à poursuivre un chemin de vie qui respecte son engagement, son alliance. Mais pour ce faire, Jésus, si aimant, si bienveillant, lui dit ce mot plein de confiance en elle, « Va, va, je te fais confiance, ne pêche plus. » Jésus ne la laisse pas aller seule, il lui dit « Je te fais confiance, je sais que tu peux le faire. » Alors me direz-vous, c'est très bien, mais nous, chrétiens, nous ne lapidons pas, etc., et nous ne couchons pas sous le lit des adultères pour les coincer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce texte aujourd'hui ? Eh bien, je dirais qu'il faut sans arrêt se rappeler que la loi donnée dans la Bible ou que la loi de notre pays n'est en principe que pour la vie. Certes, il y a des lois iniques dans notre République, notamment celle qui condamne, avec un gouvernement socialiste, passons, qui condamne les personnes qui s'occupent des SDF et les accueillent chez eux, ou des sans-papiers. En France, vous accueillez un sans-papier chez vous, vous pouvez être condamné. J'appelle ça une loi inique pour la mort. Il y a donc des mauvaises lois, même dans notre pays. Mais la démocratie est le meilleur, paraît-il, ou le moins pire des systèmes. Donc rappelons-nous en tout cas que la loi prêtée à l'Éternel ou que la loi dans la bouche de Jésus, mais je n'en ai pas beaucoup trouvé, est toujours une parole pour la vie. Jamais pour condamner quelqu'un à mort. Jésus nous redit aussi qu'il y a d'autres relations entre êtres humains que de ses pieds pour aller voir où l'autre va pécher. N'y a-t-il pas non plus d'autres relations que de répéter à l'envi la faute de l'autre ? simplement pour se rassurer soi-même. Vous avez vu ce qu'il a fait, pendant ce temps-là, on ne regarde pas. Il y a bien, mes amis, toujours une poutre dans notre œil. Toujours. Quand c'est pas dans les deux yeux, d'ailleurs. Il y a souvent en nous ce désir de condamner l'autre. Souvent, d'ailleurs, parce que nous ne comprenons même pas ce qu'il fait. Oui, oui, nous savons tout ça. Mais nous nous égarons dans l'orgueil, dans la convoitise et dans la médisance. Comme l'autre, comme les autres. Avec des conséquences plus ou moins graves. Mais la parole aussi blesse. Et le regard aussi. C'est pourquoi le chemin ouvert par Jésus prend tout son sens. Et là, je vous invite à entendre un autre texte dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Je ne sais pas si Charlotte vous a dit, mais je suis toujours un peu longue quand je prêche, hein, moi. Jésus dit encore, « Un humain avait deux fils. Le plus jeune dit à leur père, « Père, donne-moi la part de possession qui me revient en héritage. » Celui-ci leur partagea ses moyens de vie. Peu de jours après, ayant tout réalisé, le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et là il dilapida son avoir, vivant immodérément. Ayant tout dépensé, une forte famine survint dans ce pays, et il commença à être dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des cochons. Il désirait se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, rentrant en lui-même, il dit « Combien de salariés chez mon père ont en abondance du pain, et moi ici, je meurs de faim. Me levant, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi comme à l'un de tes salariés. » S'étant levé, il alla vers son père. Étant encore loin, son père le vit et fut ému aux entrailles. Courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. À l'ordinaire, mes amis, mon ami, nous prêchons ce texte sur les deux fils. Et bien moi, je vous invite à aller regarder le père. À tourner ce regard vers le père. Et il y a quelque temps, j'étais à un séminaire de théologie dans le Jura avec Marion Muller-Collard, qui écrit dans Réforme des billets de théologie sur les textes du dimanche. Et elle a eu cette phrase qui m'a totalement surprise, dans le bon sens, puisque je la reprends avec vous. Elle dit, mais moi, quand je lis ce texte, j'y vois d'abord le Père qui reste à sa place. Ce Père voit son plus jeune fils partir dans un chemin d'errance après lui avoir réclamé sa part d'héritage, signifiant par là qu'aux yeux du fils, le père est mort. Hein ? D'accord ? J'espère que ça ne vous est pas arrivé. Hein ? Ce père entend aussi et voit la colère de l'autre fils devant le pardon et la grâce qui suivent le retour du jeune frère. Incompréhension, explication, colère au milieu des rires, mise en retrait, convoitise, jalousie au milieu de la fête. Bref, le chaos de nos cœurs humains. Sommes-nous si différents? Mais que fait ce père? Que fait ce père dans la tourmente? Il reste. Il reste chez lui, dans sa maison, dans la maison de ses enfants. Et il reste père. Même si son fils lui a dit... À mes yeux, tu es mort. Tu n'es donc plus mon père. Ce père reste père à sa place. Il reste ce père et pas seulement dans sa maison, il reste fidèle à lui-même. Fidèle à ce qu'il est, à ce qu'il a décidé d'être. Un père respectueux du désir de son fils, même s'il ne le comprend pas. Un père miséricordieux de son fils, même si celui lui fait le pire coup. Un père qui reste dans la bienveillance, même si son cœur déborde de chagrin. Il reste fidèle aussi à son fils, car ce n'est pas parce qu'il est parti qu'il n'est plus son fils. Au contraire, le père passe ses journées à regarder par la fenêtre. À attendre le retour. Au respect de la décision du Fils se mêle l'espérance qu'un jour, le Fils aura mûri, aura compris, aura saisi l'amour dont il a été aimé et dont il est encore aimé. Il n'y a pas d'amour sans cette patience en faveur de l'être aimé, que ce soit en couple ou avec ses enfants. Le Père veut être le roc qui ne disparaîtra pas, veut être le port d'attache de celui qui part et dont il espère le retour. Que serait ce Père s'il quittait ce lieu qui est le sien, ce lieu qu'il a fait sien, ce lieu où son Fils est né et a grandi? Peut-on être fidèle à l'autre si l'on n'est pas fidèle à soi-même? Le Père qui reste dans la peine et le souci aura la joie d'accueillir celui qui est parti et de fêter son retour, comme il restera fidèle à l'aîné qui est très en colère. Alors, comme pour la lapidation, que dire aujourd'hui pour nous? Eh bien, si nous croyons, comme nous essayons de le faire ou comme nous le disons, nous croyons que Jésus, que l'Éternel révélé par Jésus est notre roc, notre port d'attache, le phare de notre vie. Alors ne l'oublions pas dans les tempêtes. Nous qui avons l'habitude de ranger l'Éternel ou le Christ dans un placard et de le sortir quand ça ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? C'est là, mes amis, dans ce roc, dans ce phare, qu'il faut s'enraciner, qu'il faut s'attacher, qu'il faut se lier, qu'il faut s'originer, trouver notre origine. C'est là qu'il faut s'arrimer afin de ne pas perdre le cap au milieu des bourrasques. Comme disent les psaumes, Dieu est amour et est mon roc, ma forteresse, mon rocher. Faisons confiance à cette parole de Jésus qui nous dit que l'Éternel est et reste à sa place à jamais, qu'il n'abandonne jamais, que jamais il ne nous quitte, c'est nous qui partons ailleurs, que jamais l'Éternel ne manque à sa parole. C'est nous qui sommes aux abonnés absents, qui sommes des fils prodigues, qui voulons vivre de l'héritage en oubliant celui qui nous donne l'héritage. Nous sommes des ingrats. Nous sommes des égarés sur nos chemins, des perdus de l'esprit et du cœur. Mais nous pouvons à chaque instant revenir au port, car nous savons qu'alors le Père se précipitera à notre rencontre. Enfin, et c'est encore notre confiance en l'Éternel, mais restons fidèles à notre foi dans la bourrasque. N'hésitons pas sur nos choix. Le seul Dieu que nous avons est celui révélé par Jésus. Avec le Christ, nous choisissons la bienveillance et la miséricorde contre toute condamnation, contre toute exclusion. La seule loi qui est la nôtre est celle d'Exode 20, qui respecte l'Éternel en respectant les autres. Il n'y a pas de séparation entre l'Éternel et les autres dans la loi. Ne nous laissons pas égarer par nos orgueils. Comme le dit Paul, si tout est permis, tout n'est pas utile. Pour lutter contre l'obscurantisme, car hélas, il y en a, pour faire reculer les fanatismes, y compris protestants, pour faire échec à la violence et mettre en déroute les cavaliers de tous les intégrismes, la connaissance et la pensée sont indispensables. Oui, l'Éternel compte sur notre intelligence. La foi n'est pas une émotion. La foi est un choix qui nous demande d'être intelligents. Tous les jours, toujours, choisir la vie, la bénédiction, l'amour, le respect, la bienveillance, la générosité. Mais pour ça, il faut s'enraciner chaque matin. Quelquefois, plusieurs fois par jour, quand la journée est longue et difficile. Et nous ne sommes jamais seuls. Vous savez que le seul problème humain que nous avons, c'est notre solitude intrinsèque. existentiel. Eh bien, le Dieu de Jésus-Christ nous dit « Tu n'es pas seul, je suis là ». Il nous invite à choisir la vie, à faire de la place aux autres, à combattre la justice par la parole et non par les armes, à nous agenouiller pour dessiner plutôt qu'à nous dresser pour juger. À nous de choisir ce que nous voulons être dans notre vie. Lumière de bénédiction, parole de bénédiction, geste de bénédiction. Que l'Esprit nous accompagne sur ce chemin. Amen.